Alors, si je vous disais Jésus-Christ est ressuscité, quelle serait votre réponse? Il est vivant. Et si je vous dis il est vivant, vous dites? Et si je vous pose la question de savoir qui est vivant et qui est ressuscité? Jésus-Christ est vivant et il est ressuscité pour toujours.
Amen.
Alléluia. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui, il est vivant, il est ressuscité. Nous nous réjouissons vraiment, puisque la résurrection, c'est le fondement de notre foi. Et nous bénissons le Seigneur. Puisque si Christ n'était pas ressuscité, nous ne serions même pas là. D'ailleurs, même les disciples n'auraient même pas eu le courage de pouvoir prêcher. Parce que quand il a été arrêté, qu'il a été exécuté, ils s'enfermaient même pour prier. Ils avaient peur. Mais comme Christ est ressuscité, même Pierre qui le reniait publiquement, il était capable de dire, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est Jésus-là, Dieu l'a ressuscité. C'est Amen. Jésus-là, il est vivant pour toujours. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Puisque Christ est ressuscité, nous avons le fondement de notre prédication. Puisque Christ est ressuscité, nous avons la force de prêcher. Puisque Christ est ressuscité, le Saint-Esprit est descendu, comme il a promis, pour pouvoir conduire l'Église jusqu'à la rentrée du Seigneur. Notre Dieu nous aime tellement qui n'a pas voulu nous laisser seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je vous enverrai quelqu'un qui va vous conduire partout et il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Quelle grâce. Amen. Il a même précisé, aujourd'hui, il est avec vous. Il sera avec vous, mais il sera en vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit habite en nous. Ce qui fait que nous qui avons cru véritablement, comme Jésus le disait, « Celui qui croit en moi et en qui mes paroles demeurent. » Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure. » En d'autres termes, quel privilège que de savoir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en qui? En moi. Alléluia. Si les gens avaient conscience de cette réalité spirituelle, que quand on a cru, quand on a accepté le Seigneur Jésus, quand on a placé toute la confiance en lui, toute la divinité vient habiter en nous. Quand on a conscience de cela, on ne peut plus se comporter n'importe comment. Puisque Dieu vient faire de nous sa demeure, nous sommes le temple de Dieu, l'habitation du Dieu vivant est vrai. Avant de parler de la résurrection qui est célébrée aujourd'hui, peut-être que certains ne savaient pas pourquoi est-ce que les chrétiens célèbrent le culte de dimanche. Parce que dans l'histoire du salut, les juifs célébraient leur rencontre le Shabbat, qui correspond à samedi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les chrétiens abandonnaient le Shabbat? Parce que tout simplement, ils ont été libérés de l'esclavage de la loi. Et la rencontre dominicale, c'est une rencontre de célébration de la résurrection. Chaque dimanche, quand nous nous réunissons, nous célébrons la résurrection de Jésus. Le fondement de notre foi, le fondement de notre espérance. Nous n'avons pas une espérance qui trompe. Nous avons une espérance vivante et vraie, qui, j'allais dire, mais qui, en quelque sorte, si je parlais comme les jeunes gens, qui booste notre foi. Puisque nous sommes fondés sur la vérité, Christ est réellement ressuscité. Mais avant qu'il ne ressuscite, et c'est là que nous devons prendre conscience de l'histoire de notre salut. Avant qu'il ne ressuscite, il y a eu la passion. Puisqu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un ressuscite s'il n'est pas mort. Donc, ça a commencé par la passion, la souffrance. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà vu ce film, La Passion de Christ, qui a été, en quelque sorte, vraiment dramatisé à l'extrême pour qu'on voit comment Christ a souffert dans son corps, où il a été élevé par la violence des êtres humains, la méchanceté extrême. On l'a humilié publiquement. Et on l'a cloué sur la croix. Comme un brigand. Entre les brigands. Et la passion, la souffrance de Christ. Vous savez, notre fête de Pâques est différente de la Pâques des Juifs. Pourquoi ? Parce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus comme le Messie, les Juifs qui pensent que Jésus n'était qu'un homme de Nazareth, que Jésus n'était que fils de Marie et de Joseph, ces Juifs-là continuent aujourd'hui, orthodoxes, à dire, mais Jésus, mais il n'est pas Dieu. Quand ils fêtent la Pâque, ils ne se réfèrent pas à Jésus. Ils se réfèrent à quoi ? À la sortie d'Égypte. Dans Exode chapitre 12, ils se réfèrent à cette sortie où Dieu avait ordonné de protéger son peuple. Mais pour protéger ce peuple, il fallait bien qu'il y ait un sacrifice. Un agneau immolé ou un chevreau. Et qu'il fallait l'immoler entre les deux soirs, c'est-à-dire entre le coucher de soleil et la tombée de la nuit. Prendre le sang de cet agneau-là, mettre sur les lenteaux de la porte, au point où, pendant la nuit, quand l'ange de destruction allait passer, tout ce qui avait le sang de l'agneau sur les portes, les lenteaux, était épargné. Oui, tout ce qui était dans ces maisons protégées par le sang de l'agneau était épargné, alors que l'ange destructeur a éliminé tous les aînés de tous les enfants égyptiens. Aujourd'hui où nous parlons, on ne parle pas nécessairement de Pâques par rapport à l'agneau, mais il parle de pain sans levain. Oui, Jésus et ces pains-là sans levain. Ils n'ont pas compris que la Pâque qu'ils célébraient, qui était la délivrance de l'esclavage d'Égypte, et que Pharaon lui-même était comme le diable qui tenait les enfants d'Israël dans l'esclavage, et que leur libération était comme la préfiguration de la libération des hommes qui placeraient la confiance dans le Seigneur. Il continue. Mais ceci dit, du temps de Jésus lui-même, il y a eu des Juifs qui ont cru. La preuve, tous ceux qui nous ont légué le Nouveau Testament, ce sont des Juifs qui ont cru que Jésus était véritablement le Messie, le Sauveur du monde. Même aujourd'hui où nous parlons, nous avons des Juifs qui croient en Jésus-Christ, qu'on appelle les Juifs messianiques. Donc, Dieu continue à convaincre les uns et les autres pour dire, c'est Jésus de Nazareth là, c'était lui le Messie, le Sauveur du monde. Oui, Jésus-Christ est réellement ressuscité. La préfiguration de Christ. Le choix de l'agneau. De l'agneau mâle, de l'agneau sans défaut. Ces choix étaient réellement la représentation anticipée de Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de textes parlent de la préfiguration de ce que Christ allait subir dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. Un texte a retenu notre attention, ce qu'on appelle l'Évangile dans l'Ancien Testament. C'est le livre des prophètes Ésaïe. Nous lirons un seul chapitre, nous lirons versets 2 à 12. Ésaïe 53. Le Messie s'est élevé devant l'Éternel comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, et il verra une postérité qui prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, puisqu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, puisqu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus. Quel tableau! Parfois nous lisons tout simplement comme si c'était un récit, mais nous ne passons pas du temps à analyser chaque contenu. Christ souffrant jusqu'à la mort. La mort de la croix. Depuis l'agneau immolé, Exode chapitre 2, tout au long de l'histoire des Juifs, on a présenté des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Mais voilà que Hébreux 10, verset 4 nous dit qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter le péché. C'est pourquoi, quand le Christ est entré dans le monde, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, il dit à son père, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Pourtant, ces sacrifices et ces offrandes étaient donnée à Dieu selon la prescription de la loi. Jésus dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, dit Jésus, pour faire ta volonté, ô Dieu. La volonté de Dieu. Le point capital est là, la volonté de Dieu. Le texte nous dit, c'est en vertu de cette volonté, Hébreux 10, 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sauvés. Me voici pour faire ta volonté. Que l'Esprit vous ouvre l'intelligence pour comprendre cela, puisque cela est capital. Jésus dit, il y a eu des sacrifices, il y a eu des offrandes, il y a eu des holocaustes, mais tu ne les as pas agréés. Me voici pour faire ta volonté. En d'autres termes, les gens peuvent faire des sacrifices, les gens peuvent servir, les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. Mais s'ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, cela ne sert à rien. Vous avez lu, pour certains d'entre vous, le serment sur la montagne. Jésus, c'est son premier serment. Vous le trouvez dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Tout est enseignement. Et il conclut cet enseignement avec ce passage. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Beaucoup connaissent la volonté de Dieu, mais vivent comme ils veulent. Il poursuit en disant, au jour du jugement, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait des signes en ton nom? Miracles, signes, prophéties. Tout ce que vous voulez, qui manifeste la puissance de Dieu dans les dons spirituels. Tout cela n'a aucune valeur si on ne fait pas la volonté de Dieu. J'insiste, même les services d'aujourd'hui, servir même dans l'église, ça ne sert à rien si on ne fait pas la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ces gens-là vont dire, mais Seigneur, mais n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Quelle est la réponse de Jésus? Éloignez-vous de moi qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas pendant que vous serviez, pendant que vous prophétisiez, pendant que vous fassiez le miracle, pendant qu'il vous connaissait. Je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, nous avons des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui servent, qui font même des miracles, qui font même des choses extraordinaires, mais que Jésus ne connaît pas. Je ne vous ai jamais connu. Nous devons réfléchir. Jésus dit, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais me voici pour faire ta volonté. La volonté de Dieu est déterminante dans notre relation avec lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est là la description de la puissance de Dieu pour vaincre le péché. Si on ne se soumet pas à la volonté de Dieu, on va continuer à être esclave du péché. Vous savez comment le péché est entré dans le monde? Par la désobéissance. Dieu a dit, vous ne ferez pas ceci. Satan lui dit, oh, c'est de la poudre aux yeux, vous pouvez le faire. Dieu a dit, et Satan vient dire après Dieu, et l'homme choisit, au lieu d'obéir à Dieu, il va obéir à qui ? Au diable. La désobéissance. Jésus, quand il entre dans le monde, il dit, ce monde vit dans la désobéissance totale depuis la création. Mais moi, je viens dans ce monde pour faire ta volonté. Et la Bible nous dit, c'est en vertu de cette détermination de ne faire que la volonté de Dieu qui a conduit Jésus jusqu'à la victoire sur le péché. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Sans la soumission à Dieu, vous serez toujours esclaves du diable. Parce que c'est lui qui va commander. On dit à certaines personnes, mais votre comportement là, il n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils disent, mais laissez-moi, le Saint-Esprit lui-même me convaincra. Quel Saint-Esprit va vous convaincre? Puisque c'est le seul Saint-Esprit qui a convaincu de péché, et toi on te dit, mais qui a écrit la Bible? Ce n'est pas le Saint-Esprit? Si on te dit ce qui est conforme à la parole de Dieu, et que toi tu dis, le Saint-Esprit va me convaincre, quel Saint-Esprit va te convaincre? Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. La volonté de Dieu dans notre salut. Adam a échoué sa mission à cause de la désobéissance. Jésus a réussi sa mission à cause de l'obéissance. La Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Quelle grâce. Heureusement qu'il a dit oui jusqu'au bout. Vous savez, c'était tout un combat spirituel. Aujourd'hui, les gens s'amusent à faire, on fait les combats spirituels, on chasse les démons. Mais le vrai combat spirituel était où? Avec Jésus. Quand il a commencé son ministère, le diable est venu. Le diable est venu pour lui suggérer de désobéir à Dieu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, transforme ceci. Est-ce que le diable ignorait que Jésus était fils de Dieu? Jusqu'à lui lancer un défi, si tu es fils de Dieu. Vous savez, même aujourd'hui où nous parlons, le diable emploie beaucoup le défi. Si tu es un homme, fais ceci, sinon tu les poules mouillées. Si tu es, on te pousse à faire le mal. Attention au défi. Si tu es fils de Dieu, nous ne vivons pas qu'avec la nourriture physique. Jésus même lui disait, oui, l'homme ne vivra pas, mais de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Si tu es fils de Dieu, mets-toi en haut du temple et jette-toi solennellement et tout le monde saura que tu es vraiment fils de Dieu. La gloire. Combien de gens sont tombés dans le piège de la gloire, de chercher à paraître devant les hommes. Quel piège diabolique. Et le diable a poussé l'audace, jusqu'à demander à Jésus, si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi et je te donne tout ça. Le diable, qui n'est qu'une créature parmi les créatures. Or, toutes les créatures doivent adorer le Créateur. Le diable vient dire au Créateur, prosterne-toi devant moi. Quelle inversion de rôle. C'est pourquoi Jésus l'a renvoyé avec la dernière force. Éloigne-toi de moi, Satan. Parce qu'il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, ton Dieu. Et à lui seul, tu rendras le culte. Si tu es fils de Dieu, retenez bien ce défi et ce langage diabolique au début du ministère. Nous le retrouvons à la croix. Et c'est là que nous voyons que le vrai combat était là. Le diable avait fait tout pour vouloir décourager Jésus dans sa détermination. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le jardin de Gethsémané, quel combat! Jésus savait ce qu'il attendait. Un enfant de Dieu parmi les hommes qui va être humilié, lié comme un brigand. On va lui bander les yeux et lui donner des soufflets comme s'il était un malfaiteur. On va lui arracher la barbe, on va cracher sur... Il connaissait tout cela. Il dit à son père, si cela pouvait être éloigné. Mais il ajoute, toutefois, que ta volonté se fasse. Il savait le traitement horrible, la violence, la méchanceté des soldats romains. Il connaissait tout cela. Il savait bien les supplices de la mort sur la croix. Toutefois, si c'est ça ta volonté, eh bien qu'elle se fasse. Faire la volonté de Dieu, quoi que cela nous coûte. Et Christ est allé jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, on dit l'évangile est gratuit. Oui, il est gratuit parce que tu ne payes rien pour être sauvé. Mais il a coûté Jésus. Il a coûté l'humiliation publique, la souffrance dans sa chair, les blessures profondes. Pour ceux qui ont vu ce film, qui ont illustré cela, on voit comment, quand les soldats romains méchants, avec des fouets, avec lanières en clous, enfoncer les clous dans sa chair. Quelle méchanceté! Il savait ça, mais il a dit, si c'est ça ta volonté, je vais le faire jusqu'au bout. Heureusement qu'il a dit oui et qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Oui, nous fêtons la résurrection, mais il faut que nous prenions conscience de cette histoire qui a conduit à la mort avant la résurrection. Jésus est allé jusqu'à la mort dans l'obéissance. Jean l'a vu venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce ne sont pas les agneaux au cours de l'histoire des Hébreux, non. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jésus, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous avons quelques questions à nous poser. Trois principalement. Pourquoi fallait-il que Jésus souffre d'une manière aussi horrible? Pourquoi fallait-il qu'il souffre? Deuxième question, pourquoi fallait-il qu'il meure? Dernière question, pourquoi fallait-il qu'il meure sur le bois ou sur la croix? Première question, la réponse est celle-ci. Jésus devrait souffrir dans Ésaïe 53 que nous avons lu, au verset 10, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Vous qui êtes parents ici, quel est ce parent qui peut accepter qu'on torture son enfant devant ses yeux? Aucun parent. Aucun. Mais dans ce texte, nous lisons, il a plu à Dieu de les briser par les souffrances. Nous nous posons la question, mais comment est-ce que cela a été un plaisir pour Dieu de voir Jésus torturé, supplié? Quel est le plaisir qu'il avait? Nous avons quelques réponses dans le texte d'Ésaïe 52, versets 4 à 5, où nous lisons, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et puis nous nous avons considéré comme s'il était puni, frappé, humilié. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez la fin. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc le plaisir de Dieu, ce n'était pas de voir Jésus torturé, souffrir, bafoué, supplicié. Son plaisir était de nous voir guéris dans les meurtrissures de Jésus. Quelle grâce! Quelle grâce! Oui, en Christ Jésus, nous recevons la guérison. L'apôtre Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24, il dit ceci: Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais il se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions selon la justice de Dieu. Lui, par les maîtrisures duquel nous avons été guéris. Alléluia. Nous avons donc ici les souffrances du Christ, mais dans le but de notre guérison. Et pourquoi Jésus devait non seulement souffrir, mais mourir? La réponse, nous la trouvons toujours dans ce même Ésaïe 53. Il est dit que le châtiment, 53 verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quel est ce châtiment qui nous a donné la paix, la réconciliation avec Dieu, qui est tombé sur Jésus? Ce châtiment, c'est le salaire du péché, c'est... Alors qu'il n'a pas péché, puisque tout simplement il a porté nos péchés, Dieu a prononcé la sentence des morts sur son Fils. En d'autres termes, Jésus a subi ce que nous devrions subir pour l'éternité. Les châtiments que nous méritions est tombé sur lui. Nous comprenons donc ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, où il est dit que le Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Quelle grâce! Dieu saint, manifesté en Christ, qui accepte de subir le péché, de subir les châtiments que méritent les pécheurs. L'un des brigands l'a connu en disant à l'autre: toi, tu ne te rends même pas compte. Nous, ce que nous subissons, nous le méritons. Mais lui, reconnaître que Jésus ne méritait pas cette condamnation. Dans la justice du monde, quand les gens sont devant le tribunal, est-ce qu'on condamne le juste? On condamne le coupable. Mais dans la justice de Dieu, puisque l'homme était incapable d'aller vers Dieu, Dieu condamne son Fils qui lui n'a pas péché. Il le condamne à notre place, pour que, étant en lui, nous puissions être justifiés par sa grâce. Amen. Quelle grâce! C'est là que nous voyons l'amour que Dieu nous a donné. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. On ne périra plus jamais, puisque nous avons la vie pour l'éternité. Quand l'apôtre Paul décrit cela et qu'il dit dans Romains chapitre 8, maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il affirme cela? Puisqu'il a dit, Christ a déjà été condamné à notre place. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour nous. Et il poursuit en disant, mais qui va alors nous condamner? Personne, puisque Dieu nous a justifiés. Qui va nous accuser? Personne, puisque Satan a été désarmé. Nous avons un Jésus magnifique, formidable, est allé jusqu'à la mort de la croix. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. La dernière question, mais pourquoi devait-il mourir sur la croix? D'ailleurs, Satan avait fait tout pour qu'il puisse être tué en dehors de la croix. Même pendant son ministère, une fois qu'il a fini son serment, les Juifs qui étaient énervés contre lui se sont précipités pour le jeter en dessous de la ville. Il est sorti par là, puisque ce n'était pas son heure. Et il ne devait pas mourir en dehors de la croix. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix ou sur le bois? La réponse est là. Jésus devait mourir sur la croix. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction. Cette malédiction de la loi étant devenue lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ va mourir, mais va mourir sur la croix ou sur le bois. Vous savez, la loi disait, celui qui mettra ces lois en pratique vivra par elles. En d'autres termes, c'est comme si on avait la vie en pratiquant la loi. Or, le texte Galate démontre clairement que aucun homme sur la terre n'était capable d'observer la loi, jusqu'à pousser à l'extrême en disant, si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il est coupable de toute la loi. En d'autres termes, tout le monde tombait dans la malédiction de la loi. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ a accepté cette malédiction en allant jusqu'à la croix pour porter les malédictions que nous devrions avoir. De telle manière que, en Christ Jésus, la Bible nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Amen. Le temps de la malédiction, il est fini. D'ailleurs, même aujourd'hui, en dehors de la malédiction de la loi, si quelqu'un vous maudit alors que vous êtes en Christ, il perd son temps. Tout simplement parce que nous sommes bénis. Et celui qui bénit l'Éternel, ça ne sera suivi d'aucun chagrin. Puisque Dieu se charge d'accomplir sa parole de la bénédiction en Christ Jésus. Deuxième réponse, pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? En dehors d'enlever la malédiction. Jésus devait mourir sur la croix, pourquoi? Parce que c'est par la croix qu'il a vaincu le diable et toutes les puissances des ténèbres.
Amen.
Vous savez, Amen. Le combat était terrible. Les gens n'ont pas vu les démons à la croix. Mais les démons étaient là, rassemblés. Et c'est ces démons-là qui parlaient au travers les gens qui suppliciaient Jésus. Qui lui disaient, comme le diable disait au départ du ministère, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es... Les démons même au travers de ces gens-là disaient à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Ils savaient bien que s'ils descendaient de la croix, pas de victoire. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix. Il a donc vaincu le diable et toutes les puissances des ténèbres. Dans Colossiens, chapitre 2, versets 14 à 15, voici ce que nous lisons. Que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les pouvoirs. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Alléluia.
Amen.
Gloire à Jésus.
Amen.
C'est sur la croix que Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. C'est sur la croix que Jésus nous a transporté dans cette victoire qu'il avait. Dernière réponse. Pourquoi Jésus devait mourir sur la croix? Non seulement pour vaincre les puissances des ténèbres, mais pour nous libérer de l'emprise du pouvoir des ténèbres. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14 dit ceci. Rendis grâce au Père. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des fidèles dans la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés.
Amen.
Alléluia. Remarquez bien ce qui est dit. Il nous a libérés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
Amen.
Si nous comprenons cela, nous avons franchi les domaines de la résurrection. Puisque nous transporter dans le royaume de son Fils veut dire que nous sommes ressuscités avec lui et que nous sommes montés avec lui dans les lieux célestes. Un conseil, bien-aimé. Jésus non seulement a fait toutes ces choses spirituelles en notre faveur, mais il nous a donné un exemple. Il nous a laissé un exemple à suivre. Vous voulez avoir la victoire sur le péché? L'obéissance, même si cela vous coûte la vie. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs qui subissent des tortures et qui ne renient pas Jésus, qui sont prêts à mourir. Nous avons des histoires atroces où on lit les gens, on les met dans les fours à briques vivants pour qu'ils meurent dedans. Nous, on a des histoires horribles. On vous dit, si vous ne reniez pas votre foi, on vous lit, on vous met dans les tonneaux bouillants de bitume. Oui, c'est des choses horribles. Ils ne peuvent pas renier Jésus. Le texte nous dit, si vous connaissez vraiment l'amour que Dieu vous a manifesté, vous ne serez pas là pour le renier. Qui nous séparera de l'amour que Dieu nous a manifesté en Christ? Serait-ce la mort? Serait-ce la violence? Serait-ce la nudité? Serait-ce la disette? Qui nous séparera de cet amour? Rien. Même pas les puissances des ténèbres. Même pas le pouvoir de ce monde. Rien ne peut nous séparer de cet amour que Dieu nous a manifesté en Christ et Jésus. Amen. Dieu soit loué. Oui, Christ est notre modèle. Il nous est dit dans Jean chapitre 16, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit toutes ces choses, vous aurez des tribulations, des souffrances, mais prenez courage, puisque j'ai vaincu le monde. Souffrir, oui, c'est possible, mais espérer la résurrection, voilà notre vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. Et Satan, il emploie cela. Nous n'avons pas peur de la mort parce que nous savons les jours de notre départ. Dieu l'a déjà fixé depuis longtemps. Quand vous lisez le psaume 139, vous trouvez où est-ce que je peux aller où Dieu ne connaît pas. Même quand j'étais encore comme une boule informe dans le ventre de mon père et de ma mère, mais Dieu me connaissait. Et même les jours qu'il n'avait... Donc tout est déjà arrêté par Dieu pour plus tard. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai la crainte de l'Éternel. J'ai la confiance en l'Éternel. Je n'ai peur de rien, ni de personne. Christ est avec moi. Il nous a laissé un modèle. C'est pour ça qu'il a dit, Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, il commence par quoi ? Par renoncer à lui-même. Ensuite, qu'il se charge de sa propre croix et qu'il me suive. En d'autres termes, tu ne peux pas suivre Jésus si tu n'as pas renoncé à ton moi, 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 moi. Satan remplit le cœur des gens pour le considérer comme le centre du monde. Moi, moi, moi. Moi, j'ai ça. Moi, j'ai téléphoné le dernier cri. Moi, moi. Qu'est-ce que ça vaut? Vous comprenez? C'est même ridicule de s'identifier aux choses matérielles passagères. Renonce à ton moi. Renonce à ton moi pour suivre Jésus. Il n'y a pas moyen de suivre Jésus si tu es accroché à ton moi et que tu penses que c'est toi le centre de la terre. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, Dieu nous parle et nous devons être attentifs. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 21, voilà ce qui est dit. En effet, mais quelle gloire à supporter si vous avez des mauvais traitements parce que vous avez commis des fautes. Mais si vous supportez la souffrance puisque vous faites le bien, ça c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple. afin que vous suiviez ses traces. Le chemin qui mène vers la croix, le brisement de soi-même, c'est-à-dire nous nous mettons devant Dieu pour dire « Je veux suivre Jésus ». Je vais faire comme Jésus a fait. Amen. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Si cela est dans la volonté de Dieu, nous le ferons au nom de Jésus.
Amen.
Que le Saint-Esprit nous fortifie. Je vais résumer la vie de Jésus. Il est presque midi, mais bon, comme je ne prêche pas ici, ça fait longtemps, j'en profite. Ah, ne vous fatiguez pas, aujourd'hui c'est Pâques, c'est la fête. Alléluia. Résumé de la vie de Jésus. Jésus, il est venu dans le monde pour nous sauver du péché. Il a été déterminé pour dire, je serai obéissant jusqu'à la mort. Il a souffert de la part des hommes qu'il est venu sauver. Il a achevé son œuvre. Il a dit à son Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as prescrit. Il a remis son esprit à son Père. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli, mais son corps n'a pas connu la décomposition. Il est ressuscité le dimanche. Alléluia.
Amen, amen, amen.
Nous passons de l'histoire de Jésus à notre histoire. La résurrection. Elle n'a pas seulement été physique. La résurrection est aussi spirituelle. Et il faut que l'esprit ouvre notre esprit pour comprendre cela. Dans Jean chapitre 5, au verset 24 à 25, voilà ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Et en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà là pendant qu'il parlait, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Écoutez la parole du Christ. Passer de la mort à la vie. Déjà, sur le plan physique, cela s'est produit. Lazare était enfermé. Quatrième jour, en pleine décomposition, Jésus arrive devant le tombeau. Il dit, Lazare, sors! Comment est-ce qu'il pouvait donner l'ordre à quelqu'un qui est mort et en décomposition? Les morts entendent la voix de Christ. Lazare a entendu la voix de Christ. Et il est sorti du tombeau. Imaginez-vous ce miracle extraordinaire. Jésus parle à quelqu'un qui est en pleine décomposition et lui dit, sors! Et Lazare, il sort. Vous savez comment on enterrait les gens dans le temps? On les entourait de bandelettes. Ils étaient tous en... Il est sorti les pieds et les mains liés. Comment est-ce que quelqu'un peut sortir et marcher les pieds et les mains liés? C'est là qu'on voit la puissance de la résurrection. C'est là qu'on voit la puissance de la parole de Christ. Les morts entendent la parole de Christ et ils vivront pour l'éternité. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 7. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, dans le train de ce monde, le prince de ce monde, de ce prince de puissance de l'air. L'esprit qui agit aujourd'hui dans le fils de la rébellion. Oh, la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Autrefois, nous étions dans les convoitises de la chair. Nous accomplissions nos volontés ou la volonté de notre chair, de nos pensées, par nature, enfants de colère. Mais Dieu, qui est amour, qui nous a aimés, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Oui, nous avons cette grâce de passer de la mort à la vie. remarquez une chose. Beaucoup de gens n'ont jamais compris que le schéma de Jésus, c'est notre schéma à nous, spirituellement. L'apôtre Paul dit, nous avons été crucifiés. Nous avons été ensevelis avec. Nous sommes ressuscités avec. Vous comprenez sur le plan spirituel? Si quelqu'un n'a jamais été crucifié avec le Christ, il ne pourra jamais vivre un nouveau défi. La Bible nous dit, puisque nous avons été ensevelis avec lui, une fois que nous sommes ressuscités avec lui, Romains chapitre 6, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. Beaucoup de gens, on les voit comme des païens parce qu'ils ne sont jamais crucifiés. Ils ne sont jamais enterrés leur ancienne vie avec Christ. Ils ne sont jamais ressuscités spirituellement. Si quelqu'un ne marche pas comme Christ, posez-vous la question de sa conversion. Puisqu'après la résurrection avec Christ, hein, qu'est-ce qu'il nous a dit ici dans Romains 6? Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Une vie transformée.
Amen. Amen.
Transformée. Puisque le corps du péché a été détruit en nous pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que nous puissions marcher en nouveauté de vie comme des gens libres, totalement libres en Christ Jésus. Je vais terminer par quelques questions. As-tu vraiment été crucifié avec le Christ? Chacun se pose la question. As-tu véritablement été enseveli avec le Christ? C'est-à-dire enterré le corps du péché en toi pour le laisser dans le tombeau? Es-tu véritablement ressuscité avec Christ? Si tu proclames oui, on te pose la question suivante. Est-ce que tu marches vraiment en nouveauté de vie? Y a-t-il un péché qui continue à être ton maître? Ou tu es esclave d'un péché quelconque? Je pose la question capitale. Veux-tu passer de la mort à la vie? C'est là le vrai Pâques, la résurrection, les passages de la mort à la vie. Nous allons prier. Notre Père céleste, nous te bénissons pour l'œuvre accomplie par ton Fils. Et nous te bénissons puisque tu nous as associés à l'œuvre de ton Fils, pour que nous soyons crucifiés avec lui, pour que l'homme du péché, le vieil homme, ne puisse plus continuer à dominer sur notre vie. Ce matin, nous invoquons ta grâce pour que si parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore passés de la mort spirituelle à la vie en Christ, ton esprit les convainque de leur état et qu'ils prennent l'engagement de te suivre. Pendant que nous prions, je vais lancer un seul appel, sans insistance. Si le Saint-Esprit t'a convaincu que tu n'es pas encore passé de la mort à la vie, que tu n'es pas vraiment ressuscité avec le Christ, choisis de passer de la mort à la vie. Choisis la résurrection spirituelle pour marcher en nouveauté de vie. Si c'est ton cas, lève ta main, nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui prenne une telle décision? Passer de la mort à la vie. Alléluia, Dieu te bénit. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia, Dieu te bénit aussi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alléluia, Dieu te bénit aussi. Dieu protège la foi de ceux qui ont pris un tel engagement pour marcher en nouveauté de vie avec le Christ. Amen. Pardonnez-moi encore pour les rallonges de temps.